Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga dans notre émission Underscore. Soyez bien assis sur votre cul car comme tout informaticien, on va parler de code.
Tu manques pas d'air, Lisa.
Bravo.
Bonjour, Mamie-Man. Bonjour, Matt Bell. Bonjour, Doudou.
Bonjour, Cécile.
Bonjour, tout le monde.
Et bonjour, les auditeurs. Eh bien, j'espère bien, comme disait Lisa, vous êtes assis sur votre cul.
Huc.
Oh, mais en fait, on va parler de QR code, non, c'est ça?
Ah bah je sais pas, hein, c'est toi qui...
Eh bah oui, parce
c'est toi
que...
qui fais le sujet.
Mais oui, on fait le sujet. Mais avant, un peu d'actu et on écoute tout de suite Roudoudou qui avait une brève sur la TVA à nous annoncer.
Une brève à peu près brève. Alors voilà, on devait vous parler de TVA depuis l'émission précédente, je sais pas si vous vous rappelez. Alors vraiment rapidement, depuis le 1er juillet 2021, la franchise de TVA sur les importations ne dépassant pas 22 euros disparaît dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Un nouveau système de collecte fiscale fait son apparition, l'IOSS, Import One Stop Shop.
Ah, c'est pas dans l'espace, ça.
Les plateformes et vendeurs doivent s'en servir pour déclarer et payer mensuellement la TVA due sur les marchandises d'une valeur n'excédant pas 150 euros. Pour les valeurs supérieures, il y a toujours des frais de douane qui s'appliquent comme avant. Donc ça, pour tout, on vous mettra le lien vers le site de la douane. Ce qui veut dire donc que pour des petits achats, dès lors que le vendeur dispose d'un numéro de TVA, vous n'avez rien à payer. Je veux bien dire rien. La TVA sera inclue dans le prix d'achat. Donc par exemple, sur AliExpress, vous pouvez afficher les informations du vendeur pour vérifier qu'il dispose bien d'un numéro de TVA. Alors pourquoi j'insiste sur ce point ? Eh bien, c'est surtout que, suite à ça, les arnaqueurs n'oublient pas qu'il y a toujours de l'argent facile à se faire, et régulièrement, on peut recevoir des SMS réclamant des frais de douane, pour de... même des fois quand on n'a pas commandé de colis, bien évidemment.
Ouais,
hein, c'est... En fait, ils envoient des messages au pif.
On sait jamais.
Donc voilà, soyez vigilants, et bah, normalement, tout est payé. À la source.
Ouais. Après, sur AliExpress, les prix ne sont pas affichés avec la TVA, mais c'est au moment de passer la commande où ils rajoutent les 20%. voilà.
Mais, on ne vous oublie pas.
Mais au moins, ils le calculent. Ah non, mais de toute façon...
Après, oui, moi, j'étais victime récemment d'un SMS frauduleux dans lequel il était indiqué qu'il fallait que je règle des frais auprès de IPS, avec le logo UPS, mais marqué IPS.
Ah, elle est pas mal, celle-là. Ouais, alors, nous, notre association, c'est EDFI, c'est EDF avec un I à la fin. Dans la boîte aux lettres, elle est juste en dessous. Il y a des gens, ils mettent, se trompent avec les chèques. Non, ça, c'est la fesse, c'est Jean-Yves Lafesse.
C'est ça. Maître Bell, on t'écoute pour la suite.
L'ARCEP publie une édition 2021 de son rapport sur l'état de l'Internet en France. L'ARCEP revient dans son rapport sur les impacts sur les réseaux, en particulier lors du premier confinement du printemps 2020 et les principaux enseignements à tirer de la crise de la Covid-19.
Publication du baromètre du numérique 2021. Cette étude annuelle, menée depuis 2020 et réalisée par le CREDOC, a pour objectif de mesurer l'adoption par les Français des équipements et étudier les pratiques numériques, de détecter les inégalités d'accès et de compétences, qu'elles soient volontaires ou subies, et de permettre à la puissance publique d'anticiper les grandes tendances et mettre en œuvre une politique favorisant l'appropriation du numérique par tous. Ouais, on l'attend encore la politique, j'avoue, mais...
Alors non, l'ADSL ne va pas disparaître. FDN se fend d'un démenti aux prospections commerciales des opérateurs faisant croire que seule la fibre restera. Si le réseau téléphonique commuté s'éteindra bientôt, la fameuse ligne classique, l'ADSL est encore là pour quelques années au moins.
Oui, ils vont pas arracher les fils de cuivre. Hein.
Non, c'est pour ça qu'il faut pas accepter tout de suite, même si c'est alléchant, d'aller à prendre de la fibre.
Ouais, si vous avez pas envie, vous n'êtes pas obligé.
Campagne regret YouTube de Mozilla. Mozilla et ses 37 380 utilisateurs et utilisatrices de YouTube dans 190 pays ont mené une enquête visant à mieux comprendre les recommandations YouTube néfastes.
Un rapport parlementaire demande le recours systématique au logiciel libre dans l'administration. Reste à savoir s'il sera suivi d'effet ou si ça restera lettre morte comme la circulaire Hero.
Et enfin, de nouveaux emojis disponibles avec Unicode 14. Oh, il y a une boule à facettes.
C'est chouette, on va faire la fête alors.
Mais c'est pour quand le Klingon en donnant?
Ah, bah ça, je ne sais pas. En tout cas, on va écouter encore une musique chiptune bien démente de Commodore 64 qui s'appelle Pip. A tout de suite pour le sujet du jour avec le QR code. C'était Bip, une musique faite sur... Oui, Bip, sur Bip. Démo 64. Bip, c'est une démo qui a gagné le premier prix dans la catégorie pour la Sileventure 2021+1. Donc c'était DJ Grubby qui avait fait la musique et aussi le code. Hein. Il faut un peu de tout.
Ouais, alors est-ce que ça va casser mon radio timer si je passe à la suite ou pas? On va voir.
Passe à la suite.
Passe à la suite. Ouais, c'est bon, ça marche.
Ah, t'es content.
Donc on passe au sujet.
Et le sujet, alors... Eh bien, c'est le QR quoi ?
Le QR quoi ?
Eh oui, parce que si l'année 2021 rime avec vaccin, vous n'avez pu échapper à cette nouvelle mode qui ouvre de nouvelles portes de la vie presque normale à ce fameux pass sanitaire.
Ah, c'est vachement nouveau le QR code. Hein.
Ah, c'est ça. Sur vos feuilles sont affichés un dessin étrange, un truc mystique composé de petites formes géométriques, le QR code. Ainsi, je vais vous proposer de revenir sur cette retranscription graphique de vos données. Cela vous paraîtra moins obscur et vous pourrez briller en société avec votre nouveau savoir. Alors, le QR quoi ? Que dit Wiki ? Un QR code ou un code QR signifie en anglais « quick response code », un code à réponse rapide. C'est un type de code de barre à deux dimensions. C'est donc un format optique lisible par machine, pouvant être visualisé sur l'écran à l'aide d'un appareil mobile ou être lisible aussi sur un papier. Généralement, il est constitué de modules carrés noirs disposés dans un carré à fond blanc. Ces points définissent l'information que contient le code. Il existe d'autres formats de code barre à deux dimensions au fonctionnement similaire, comme le flash code ou encore le 2D doc. Souvent confondu avec le QR code.
Ouais, alors en fait, le flash code, en fait, c'est une surcouche du QR code où juste ils vendent en fait l'encodage. En fait, ils vendent le service pour fabriquer le QR code. Alors qu'en fait, le QR code, tu peux le faire toi-même avec les outils qui existent.
Mais... C'est ça. Alors on va revenir aux origines. Le code QR a été créé par Masahiro Hara, ingénieur de l'entreprise japonaise DensonWave, en 1994. Il permettait de suivre l'itinéraire des pièces détachées dans les usines de Toyota. Sa source d'inspiration fut le jeu de Go, un jeu qui contient des pions blancs et noirs sur un plateau.
Ah bah oui.
Eh oui. En 1999, DensonWave publie le code QR sous licence libre. Par la suite, il prend un réel essor avec l'avènement des smartphones. À la fin des années 2000, il devient l'un des codes bidimensionnels les plus populaires dans le monde et les applications informatiques de lecture de code QR sont souvent déjà installées par les fabricants de téléphones mobiles. Au Japon, cette pratique est déjà répandue depuis 2003. On ne s'imagine pas qu'il puisse être aussi vieux, et pourtant ce n'est qu'aujourd'hui, presque, qu'il est devenu banalisé pour la plupart des gens. Alors, à quoi ça sert ? Alors, grâce à la lecture du QR code, son champ d'application est vaste. Naviguer vers un site internet, visiter un site web, ou même mettre l'adresse d'un site en marque-page, par exemple pour montrer un point géographique sur une carte, regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia, se connecter à une borne Wi-Fi, déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS, envoyer un courriel, faire un paiement direct via son téléphone portable, ajouter une carte de visite virtuelle dans les contacts, un rendez-vous ou un événement e-calendar dans l'agenda électronique, afficher un texte ou rédiger un texte libre. Sa version la plus grande permet d'inclure un texte d'environ 500 mots. Même les plus vieux ordinateurs comme sur Amstrad, son application permet d'enregistrer les scorings de jeux vidéo vers un site web qui recense les performances des joueurs.
Et oui, mais ça c'est grâce à la magie des URL en fait. Hein. Parce que le QR code, il se contente de coder en fait des données arbitraires. Et en général, c'est une adresse, une URL, hein, une adresse d'un site web, mais ça peut être plein d'autres trucs.
C'est ça. Alors comment est-il décodé ? Le QR code peut paraître assez complexe à comprendre pour les personnes qui ignorent tout de la codification. En réalité, un QR code est composé d'un élément qui génère le code et d'un autre qui contient le code que l'utilisateur doit scanner. Les motifs des QR codes sont binaires. Pour les décrypter et accéder à l'information stockée, il faut utiliser un smartphone, une tablette ou un lecteur adapté.
Alors, il existe aussi des applis sur portable, par exemple sur les laptops, hein, avec la webcam, on peut aussi faire ça.
Le QR code, comme son nom l'indique, est un code en deux dimensions. Il répond donc à des critères prédéterminés. Je vais vous demander de visualiser sa forme dans votre tête. D'abord, aux extrémités se trouvent généralement trois grands carrés, hein, en haut à gauche, en haut à droite et puis un en bas à gauche. Ce sont les marqueurs de position. Ils indiquent au lecteur où se trouvent les bords du QR code. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'il sache où il est dans l'autre dimension. Et si vous ne l'avez pas encore observé, il existe un tout petit carré qui se situe généralement vers le bas à droite. C'est un marqueur d'alignement. Il s'agit comme un point de référence pour le lecteur en s'assurant que tout s'aligne correctement. Sur des codes de plus grosse dimension, on en trouve plusieurs de ces carrés. Autour des carrés, dans leurs extrémités, il y a des bandes appelées « timing pattern ». Elles définissent le positionnement des lignes et les colonnes. De petites sections sur les bords indiquent qu'il s'agit d'un texte, d'un site web ou d'autre chose. Enfin, il y a un petit espace où des modules représentent le numéro de version. Selon les versions, nous pouvons avoir jusqu'à V40, ce qui représente 177 multiplié par 177 modules. Le reste des petits carrés noirs et blancs qui sont utilisés sont faits pour stocker les informations. Il existe plusieurs principes mathématiques qui rendent le code difficile à falsifier. En effet, une opération mathématique s'opère en répondant à certains principes de cryptologie. Ainsi, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. L'information contenue dans le QR code peut être aussi répétée avec parfois une dégradation d'information.
Alors, c'est pas chiffré, hein. C'est pour éviter effectivement les pertes, parce que des fois, il y en manque un bout, ou des fois, il y en a qui s'amusent à mettre une image au milieu. Donc, du coup, il y a de la redondance dedans, mais c'est pas chiffré.
Non, c'est pas chiffré. Mais bon, grâce au système de correction d'erreur Reed-Solomon, les QR codes peuvent incorporer, comme tu disais, des images, telles des logos, des dessins, sans perdre les informations utiles à la lecture du code. Il suffit de transformer le code avec un logiciel de retouche d'image. Tant que le code continue de fonctionner, le code contient jusqu'à 30% de redondance. C'est un peu comme s'il y avait toujours la répétition du même message, en fait.
C'est ça. Donc, si on peut en perdre des bouts, alors faites attention quand même, parce que suivant les lecteurs, il y en a qui y arrivent plus ou moins. Donc, il y en a qui... Autant sur votre téléphone, ça va très bien lire, et puis sur un autre, ça ne marchera pas.
Après aussi, il y a la taille du QR code. Hein. Il y en a certains qui sont tout petits.
Les marges aussi, normalement, il faut des marges autour, bien blanches. Donc, si...
Normalement, oui.
Normalement.
Alors, il y a différents types. Hein. Les QR codes sont différents les uns des autres. Hein. Cependant, ils sont classés en deux principaux types, le QR code statique et le QR code dynamique. Le QR code statique sont fixes. Cela signifie que les données qu'ils contiennent ne sont pas modifiables. Ce type de code a un caractère définitif dès qu'il est créé. Il est utilisé pour fournir aux utilisateurs des informations permanentes. Dans les faits, lorsque vous modifiez l'URL, et ben, paf, le QR code ne fonctionne plus. Pour les dynamiques, il s'agit d'un code dont les informations peuvent être modifiées en cas de besoin. Par exemple, dans un usage web, le contenu ne se trouve pas dans le QR code à proprement parler, mais plutôt dans l'URL du site web. Vous avez donc la possibilité d'utiliser ou de retoucher le contenu de l'URL lié à la cible, sans que le QR code dynamique ne soit plus fonctionnel.
Ah oui, en fait, il y a une redirection.
C'est ça.
C'est comme un raccourcisseur d'URL, mais sauf qu'on peut changer la destination après coup.
Ouais, ça peut être pratique.
Ouais.
Alors aussi, il y a des variantes QR. Alors, il y a le QR micro, le micro code QR, une version réduite du QR code normal. Il est tout petit, hein, utilisé pour les applications qui nécessitent l'utilisation de petits espaces et une moindre quantité d'informations. Par exemple, l'idée des cartes de circuits imprimés ou des composants électroniques.
Ouais. Alors, est-ce que c'est Datamatrix ou c'est un autre? Je ne sais pas. Enfin, il y en a plein, effectivement, des variantes.
Et oui, il existe différentes formes de code micro QR. La plus dense d'informations peut contenir jusqu'à 25 caractères alphanumériques. Alors, quelles sont les différentes versions de QR code? Alors, pour leur catégorisation, en dehors du type statique ou dynamique, les QR codes se présentent également en plusieurs versions. En général, on distingue 4 versions. Alors, on a par exemple la numérique, l'alphanumérique, celle de l'octet et aussi la version kanji. Alors, au niveau du pass sanitaire,
ouais,
vous l'avez tous entendu. Hein.
Notez qu'il n'y a pas du TF8 dedans, il n'y a pas d'Unicode. Il y a très très longtemps, j'avais fait une carte de visite et j'avais mis mes coordonnées en V-card, justement. Et en fait, mon CCD, il s'est transformé en je ne sais pas trop quoi.
Alors, c'est vrai que du coup, avec le pass sanitaire, on a vu depuis le 3 mai 2021, les personnes vaccinées contre le coronavirus reçoivent une attestation imprimée avec un QR code. Ouais, c'est le fameux truc carré, là, qu'on voit, le gros truc avec plein de petits pixels. Hein.
Ouais.
Donc, le QR code a pour rôle d'empêcher la falsification du document. Il est à scanner avec un smartphone, par exemple, sous Android ou sur iOS. Il pourrait être stocké dans l'application Tous Anti-Covid, dont on en avait parlé quelques émissions en arrière. Pour les usagers d'Apple, il est possible aussi de le stocker dans la valette.
La valette ?
La valette.
Ah, la wallet !
La wallet !
La valisette.
Oui, la valisette, moi, chez moi, on dit la valette.
La valette.
Alors, pour les usages et les détournements, si les QR codes sont fiables de façon générale, hein, il est généralement admis qu'il peut être utilisé à des fins malveillantes. Hein. Ainsi, il y a des QR codes qui pourraient vous conduire à des sites dangereux. Pour vos données personnelles surtout, hein. Autrement dit, c'est un peu comme sur votre ordinateur, ne cliquez pas partout et n'allez pas lire tous les QR codes que vous trouvez dans la rue.
Bah, ouais, en fait...
J'ai une petite anecdote, c'est pendant qu'il parlait du pass sanitaire, alors c'était dans un pays du Nord, ils ont mis en illustration en arrière-plan un QR code qui n'était pas flouté. Et si on s'amusait à scanner le QR code, on se faisait ricroller et on arrivait sur YouTube.
Ah, je l'ai vu celle-là, je crois bien. Oui, bah en fait, le QR code, c'est juste, comme on l'a dit, hein, c'est juste du texte ou une adresse. Et en fait,
Action, hein.
Ouais, c'est ça. Mais
c'est
en fait, du coup, si vous tapez une adresse bizarroïde dans votre navigateur, vous allez tomber sur un site chelou, quoi. Donc, la différence, c'est que quand vous le tapez, vous pouvez corriger. Par exemple, si c'est .g0uv.fr, vous pouvez voir qu'en fait, c'est pas un 0, c'est un O, normalement, pour faire gouv.fr. Donc vous allez le taper, mais le QR code, si vous ne vérifiez pas ce que lit votre lecteur de QR code...
Alors, me concernant, l'application de lecture de QR code qui est sur mon téléphone est éditée par un fournisseur d'antivirus. Donc il y a un pré-scan au passage des URL.
Ah ouais. Mais parfois aussi pour ceux qui sont professionnels, hein, qui ont besoin de scanner les QR codes des usagers pour vérifier leur passe sanitaire... Là aussi, ils peuvent être, avoir justement les stocker les données des gens.
C'est un peu un des problèmes qui avait été dénoncé. On en a déjà parlé. Hein. En fait, on est obligé de faire confiance à celui qui va scanner parce qu'on fait confiance au fait qu'il a l'appli officielle et pas une autre qui va en plus récupérer les données et se faire un joli stock de passe sanitaire.
Ouais.
On est obligé de faire
ça,
confiance.
Ça, on ne sait pas. Hein. En tout cas, moi, j'ai testé un lecteur parce que tout le monde peut télécharger une application pour lire des QR codes pour le pass sanitaire. Dedans, les seules informations qui sont visibles à l'utilisateur, ça va être le nom, prénom et puis savoir si c'est valide, en fait.
Oui, c'est vrai que la première version, il y avait beaucoup plus d'infos et c'était pas évident, quoi. Et depuis, ils ont changé, donc c'est une autre version du logiciel et de la façon de mettre les infos dans le QR code. Donc du coup, il y a plus tout dans le QR code et en fait, ça fait référence à un truc que l'application va aller vérifier derrière. Donc juste en copiant le QR code, on n'a pas toutes les infos directement quand même. C'est déjà pas mal.
Ouais, parce que quand même, à travers l'usage du QR code et dans le pass sanitaire, on le ressent tous, surtout certains qui voient un contrôle permanent des gens. Déjà qu'on est assez fliqué parce que on a nos téléphones mobiles, on a nos cartes bleues. On a nos adresses IP sur le web, enfin, on sait tout ce qu'on fait. Et c'est encore un peu plus nous empêcher de vivre, on va dire, libre.
Alors après, c'est une autre façon de... Enfin, c'est un contrôle d'identité, parce que du coup, dans le QR code, il y a le nom. Et le... Voilà. Sauf que normalement, c'est plutôt à la police de faire ce genre de truc. Donc, voilà, c'est un peu gênant. C'est pas encore au niveau des Ouïghours, où je crois que c'était dans Envoyé spécial, ou je sais plus, où on avait vu des trucs.
Quand je paye par chèque, je montre ma carte d'identité à quelqu'un qui n'est pas assermenté. Hein.
Oui, ses yeux ne font pas une copie dans le cloud et tout automatiquement. Mais
quand on paye en carte bleue dans les magasins, les chiffres de la carte bleue ne sont pas anonymisés sur le ticket du commerçant. Et c'est arrivé des fois qu'il y ait des caissiers ou des commerçants qui se faisaient des fausses cartes bleues à partir de leur ticket commerçant.
Ouais.
Bon, c'est des choses qui arrivent très rarement quand même.
C'est pour ça que maintenant, normalement, le commerçant doit vous tendre le TPE et pas vous prendre la carte bleue pour le mettre lui-même dedans, normalement. Mais bon.
Oui, mais maintenant avec aussi l'intérêt d'avoir le sans contact. Et puis d'ailleurs, le QR code est venu aussi en renfort pour la sécurité des gens, mais également parce que tendre un QR code avec un truc qui scanne, en fait, personne ne se touche. Il y a juste à faire photographier par une application.
Personne ne se touche, mais le policier va quand même prendre avec ses gants ta carte d'identité après avoir pris la carte d'un autre et d'un autre.
Ça, c'est le truc qui m'avait fait hurler au début du premier confinement quand je voyais les vidéos des policiers qui prenaient les trucs. Alors qu'en fait, on leur tendait le truc bien visiblement.
Parce qu'apparemment...
C'est des mauvaises habitudes. Le seul problème des QR codes, c'est que ça ne marche pas sur... tous les téléphones.
Alors ça marche pas tous les téléphones, néanmoins comme je le disais au début, c'est que soit vous l'avez sur une application mobile ou bien vous l'avez tout simplement sur un papier imprimé. Donc
par contre pour le noter, c'est plus compliqué.
C'est un peu plus
compliqué. Alors attends, il y a un carré là. Non, franchement c'est très utile les QR codes, mais moi ça m'arrive d'en faire, j'ai même fait une petite appliquette pour web pour prendre des affiches avec un QR code et l'URL et machin. Juste quand vous en imprimez un, pensez à ajouter quand même l'adresse en dessous pour ceux qui n'ont pas de téléphone.
Oui. Alors je vais revenir justement sur le QR code. Parfois, il y a des petits malins qui gribouillent les QR codes qui sont disponibles. Je pense à notamment le QR code qui est affiché sur le panneau du stade là. Où tu peux faire des exercices sportifs, et tu peux même pas accéder à l'adresse puisque le QR code a été remplacé par des gribouillés.
Mais quand j'ai vu tout à l'heure, je pensais que c'était un QR code qui avait été ajouté par quelqu'un qui n'a rien à voir avec le stade. Un coach sportif qui est venu mettre son QR code à côté du panneau d'exercice.
Tu crois ?
En fait, je suis pas sûr que ce soit un QR code officiel.
Ah ben non, il était bien en haut du panneau avec.
Ouais, mais ça me semblait être un autocollant, donc c'est pas quelqu'un qui est venu faire sa pub et un autre est venu barbouiller.
Bon, Emmett Bell, est-ce que tu as des anecdotes sur le QR code aussi ?
Ne cliquez pas sur n'importe quoi.
Tout simplement pour le vaccin, il fonctionnait pas avec le mien et j'ai essayé donc d'avoir parce que je dois avoir le pass et je sais pas l'avoir. Voilà, tout simplement.
Oh là là. Bon, sinon, dans Haiku aussi, vous pouvez faire des rapports de bugs depuis le débugger du noyau avec des QR codes aussi.
Ah oui.
C'est la classe, hein.
Oula.
Depuis, il y a Microsoft qui a copié, je crois. Ou Linux, je sais plus. Mais...
Ouais, non, mais moi, le QR code, ça fait depuis les années 2000 que j'en génère. Hein. C'est assez facile. Hein. D'ailleurs, on vous laissera des possibilités de générer vos propres QR codes directement depuis des sites. Hein. On vous rappellera le lien sur notre site internet underscore.radio.fm. Et puis, rassurez-vous, hein, pour la quantité de QR codes à générer, on a une grande capacité. On a 2 puissance 2953 pixels, je crois.
Ouais, bon.
C'est énorme, quoi.
Il y a de la place.
Il y a beaucoup de place. Hein, donc, voilà, on a de quoi faire plein de petits dessins pendant très longtemps. Mais pas à la main, hein, heureusement.
Non, parce que sinon, il faudrait faire une pause. Bah, d'ailleurs...
Et si on faisait une petite pause pour se retrouver tout de suite après l'agenda ? Eh bien, Plastic by Raster, donc c'était une musique issue d'une démo faite sur Atari 2600, qui a été classée quatrième dans la compétition des intros 1K de la Steel Adventure 2020+1.
Et ouais.
On passe à l'agenda ?
Jingle !
L'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Séminaire Histoire de l'informatique et du numérique, cable porn et spaghetti, grammatisation et prolétarisation des gestes techniques dans l'univers du data center. Alors, c'est des passionnés de connectique aux opérateurs formés sur le tard après déscolarisation. Les techniciens de l'univers du data center voient leur métier largement recomposé aujourd'hui, à l'heure où les professions qui y sont associées sont redéfinies par la taille même des infrastructures impliquées. Alors, c'est sur inscription, ça se passe au CNAM le mardi 12 octobre de 14h30 à 17h, et ce sera à l'amphithéâtre Abbé Grégoire, accès 16 à Paris.
Cause ensemble, causerie croisée, les associations et le libre, la cause toujours, 8 rues. Gaston, Ré, 26 000 à Valence, et c'est le mercredi 13 octobre à 18h30.
Apéro de rentrée 2021 avec la Game Dave Party. Venez échanger entre gens passionnés du jeu vidéo. Comme d'habitude, cet événement est ouvert à toutes et à tous les passionnés de jeux vidéo, membres ou futurs membres de l'association, sans distinction d'âge, ni d'expérience, ni encore de milieu professionnel. C'est jeudi 14 octobre, 19h. À l'AFK Bar, 52 rue de l'Université, à Lyon. AFK, away from Keyburn. Ah, c'est joli ça.
Live Coding Party 2021, donc ce sera le 15 octobre à Zorba, 137 rue Faubourg du Temple, à Paris.
Ah, c'est les amis de la Cookie Party.
Ah oui.
Replay Festival.
Away from Keyburn.
9e édition du Replay Festival. Donc, comme chaque année, les jeux vidéo sont à l'honneur. Au programme, il y aura de nombreuses consoles, anciennes ou récentes, en libre accès. Il y aura également des concours, des conférences et des ateliers pour enfants. Ce sera le 16 et 17 octobre de 10h à 19h au gymnase René Friard, 400 avenue du Parc, à Mouhans-Sartoux, près de Nice.
Du lien et des liens. Alors, une page détaillant comment utiliser Zoom sans devoir installer le client.
Goomix, un ex de chez Google, a fuité les dessins humoristiques faits par les employés du géant. On voit que certains ne sont pas dupes.
Un format truc, une boutique ambulante, préparez vos ordinateurs pour l'instant seulement dans l'Oise.
D'adresse en Zcash en passant par hachage, clé publique ou attaque de malléabilité, l'Université de Genève a mis en ligne il y a un petit moment un lexique très complet du vocabulaire des crypto-monnaies et de la blockchain. Ce travail académique vise à démystifier ces nouvelles technologies auprès du grand public en 150 expressions. Ah oui, quand même, 150.
Ça fait du monde. Astrologique, hein, qui frotte la boule. Cosplay.
Alors
que le goth tic, les mots gite.
Les mots ici, ouais.
Sysadmin, le load balancer, il fait du one again.
Une souris verte,
un clavier violet,
je la tape par la queue,
je branche les prises PS2.
Je branche les prises PS2. J'ai tenté le canon, mais...
Ouais. Faut qu'on révise. Hein. Technophile. Ah ouais, quand même, cet écran est vraiment OLED.
Connor, ne demandez pas à un dev SQL de placer des meubles, ils font tomber des tables.
Électronicien, Jackie Quartz et Jan Maas, elles ont fait un court-circuit.
Ah, merci Glocky pour celle-là.
Eh bien, merci amis auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Vous la retrouverez en rediffusion le samedi de la semaine prochaine. Si vous aviez arrêté le début, on avait parlé du QR code. Hein. Quelque chose qui vous avait bien plu, j'imagine. En tout cas, nous, ça nous a bien plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Ouais.
Cette fois... Nous serons partis à Bourg-les-Valence.
On va sortir.
Mais oui, on va sortir, on va aller voir des gens et des gamers, puisqu'il y aura une compétition e-sport. Ouais.
Des gens avec des jeans.
C'est ça. Attention à vos manettes alors. À très bientôt, bonne fin de semaine, au revoir.
Ciao,
bye. Ciao.